À voix nue. Toute cette semaine, Claire Maillot rencontre Maurice Hollander. Ce soir, une vigilance sémantique.
Maurice Hollander, bonsoir.
Bonsoir.
Nous voilà arrivés au mi-temps de notre déambulation dans ces lieux qui vous racontent, du moins je l'espère, après les rues anversoises de votre enfance, après la rue de Chevreuse qui abrite vos premières réflexions sur l'altérité. Nous dirigeons ce soir vers un endroit que vous avez choisi pour accueillir votre famille intellectuelle, celle que vous avez réunie autour de vous au fil des années et autour de la revue que vous avez créée en 1981. Cette revue, c'est Le Genre Humain, presque 60 numéros aujourd'hui. Et beaucoup de ces volumes ont été présentés, discutés, toujours à Paris, mais à la Maison de l'Amérique latine. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Pourquoi l'avoir adopté?
Alors avant de dire un mot de la Maison d'Amérique latine, quand vous parlez de ma famille intellectuelle, il faudrait presque préciser que c'est la famille intellectuelle qui m'a fabriqué. Elle n'est pas mienne. Je lui appartiens par affinité, par amitié. La revue Le Genre Humain en 80, vous dites, à l'origine, c'était Léon Poliakov, Colette Guillaumin, Albert Jacquard, Nadine Fresco, Alain Schnapp, bon... Il y avait François Jacob, Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant. Toutes ces œuvres-là, ces personnes-là, ces femmes et ces hommes, Colette Guillaumin, à laquelle je pense, qui vient de disparaître en 2017, avaient leur œuvre. Je ne les ai pas fabriquées, ils existaient bien avant moi et ils ont accepté de m'associer à leur démarche. Et vous avez tout à fait raison de parler de l'importance de la Maison de l'Amérique latine, mais là, ça s'est passé d'une manière très simple. Vous savez, souvent, on fait des grands discours, mais dans la vie, les choses simples. Un jour, Michel Deguy, le poète, l'ami, me dit, je sais pas quoi, il parle de la Maison de l'Amérique latine. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, tu connais pas la Maison de l'Amérique latine? Je dis, non. Et François Vitrani, qui dirige? Je dis, non, mais vous êtes fait pour vous entendre. Il faut, bon... Quelques jours après, vraiment moins de 8 jours après, on prend un café ensemble. Et en effet, je débarque, François Vitrani, d'abord il avait tout lu, il connaissait tout. Bien sûr, de tous nos amis, l'œuvre de Vernant, l'œuvre de Starobinski, d'Yves Bonnefoy, la revue Le Genre Humain, Les Langues du Paradis, j'avais tout. Mais moi, je ne savais rien. Une fois de plus, c'est pas de la forfanterie. Je veux dire quand même que il faut voir que je débarque dans cet univers très accueillant à Paris. Pour moi, je me souviens, puisqu'on a parlé de ça, de mon arrivée à Paris, c'est Philippe Solers, Avant l'infini, dans tel quel a été mon premier texte sur Justin Gnostic, truc extrêmement complexe et érudit, il a tenu à le publier dans tel quel, avec une grande générosité, c'est un de mes tout premiers textes. Mais donc, la Maison de l'Amérique latine, je ne savais pas qu'elle avait été fondée par des résistants, que ce soit Paul Rivet qui était fondateur du musée de l'homme, comme vous savez, en 37, ou alors un homme dont j'avais jamais entendu parler, Luis Martins de Souza Dantas, qui était ambassadeur du Brésil en France depuis 1922, qui a bravé l'interdiction de son gouvernement brésilien en délivrant plusieurs centaines de visas qui permettent à plus de 800 personnes de fuir les persécutions nazies qui deviendra ensuite juste parmi les nations. Il a été arrêté par les Allemands, interné en Allemagne, il rentre à Paris et il est l'un des fondateurs aussi de la Maison de l'Amérique latine. Donc pour dire qu'au fond, un des bonheurs intellectuels dans ma vie sans doute a été après coup chaque fois de voir que les histoires dans lesquelles je m'étais lancé avaient une cohérence, avaient du sens. Vous savez, comme quand vous passez dans une rue ou dans une gare, dans un métro, il y a un regard qui vous happe, vous rencontrez quelqu'un, vous savez rien, et 10 ans après, vous comprenez pourquoi vous vous êtes pas trompé. C'est ça, un rapport au savoir et à la littérature, pour moi. Pourquoi la Maison de l'Amérique latine me viennent un souvenir en particulier, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont nés à la Maison de l'Amérique latine, non seulement les poètes latino-américains, Valiero, Parra, Ida Vitale, c'est une chance pour moi de se retrouver dans la librairie du XXIe siècle au Seuil, mais quand j'avais publié un des romans d'Olivier Rollin, suite à l'Hôtel Cristal. Et qu'en effet, comme pour certains volumes de la revue Le Genre Humain, vous avez tout à fait raison, on fait une présentation, donc la Maison d'Amérique Latine, il faut rappeler, les soirées sur le site sont annoncées, tout le monde peut y entrer sans avoir à... C'est pas l'opéra, on peut y aller, c'est un lieu très très démocratique. On fait donc une soirée avec Olivier Rollin, et il me dit, ça me ferait plaisir si parmi les discutants, il y avait Semprin. J'ai beaucoup d'estime, me dit Olivier Rollin, pour Semprin, je ne le connais pas, ou en tout cas il le connaissait peu. Donc je demande à Semprin, proche de la Maison d'Amérique Latine, et il vient. On parle d'un très beau livre d'Olivier Rollin, suite à l'Hôtel Cristal, que je ne raconte pas ici, où il y a toute une série de chambres d'hôtel qui défilent. C'est un écrivain qui décrit des chambres d'hôtel avec des aventures qui se passent dans des chambres d'hôtel, suite à l'Hôtel Cristal. Et à un moment, Semprin se tourne vers moi et me dit au fond, Rollin, il a fait un beau livre. Mais enfin, chacun de nous, on pourrait faire une chambre d'hôtel. C'est peut-être pas facile à écrire, mais on pourrait y arriver. Acte 1. Acte 2, on dîne ensemble. Et je dis à Rollin, ça t'amuserait, un bouquin avec des amis que tu choisirais, où chacun t'offrirait une chambre d'hôtel. Il me dit, bah oui. Je demande à Semprin, tu l'as fait ta chambre d'hôtel ? C'est devenu un livre. Donc, d'une soirée qui aurait pu être une anecdote qui serait restée dans la mémoire de quelques personnes, une centaine de personnes qui sont dans la salle, il y a un livre aujourd'hui, sous la direction d'Olivier Rollin, qui s'appelle Rooms, où il a demandé à toute une série, enfin, au fond, tous les grands écrivains d'aujourd'hui, qui sont autour de lui, de faire chacun une chambre. Moi qui ne suis ni grand ni écrivain, il m'avait demandé de faire une chambre, et c'est là où j'ai fait la chambre du Cleaver, qui est devenue un chapitre d'un fantôme dans la bibliothèque.
Vous parliez de résistance, est-ce que c'est un mot qu'on peut poser sur le projet de cette revue, la revue Le Genre Humain ?
Alors si vous permettez, je vous lis la première phrase de l'ouverture que j'avais faite en 1981, que j'avais signée avec l'accord de tous les membres de la rédaction. C'est un texte qui s'appelle « Les périls de l'évidence ». La première phrase était, c'est comme ça que je réponds à votre question, « Traquer les préjugés où ils sont, même et surtout lorsqu'ils se manifestent au nom de la science ». Et ensuite, mais pourquoi cette inquiétude soudaine ? On était en 1981. Pourrait être aujourd'hui, peut-être. Mais pourquoi cette inquiétude soudaine et cette exigence de rigueur et de lucidité critique au sein de la communauté scientifique ? Sans doute, la femme et l'homme de science ne croient-ils plus à la neutralité de leur métier ? Vous voyez qu'on revient là à la question que vous avez posée hier à propos des Indo-Européens, des Aryens, de l'idéologie et du savoir. Je reprends la phrase. Sans doute, la femme et l'homme de science ne croient-ils plus à la neutralité de leur métier? Permettez-moi, puisque c'était en 1981, de souligner que c'était une évidence pour moi qu'il y avait autant de femmes que d'hommes de science. Je dis ça parce que on est frappé quand le temps passe. Je ne suis pas un vieillard, mais je suis tout à fait jeune, de voir à quel point les débats se répète et à quel point il y a une sorte de ressassement historique qui n'est pas toujours très encourageant.
Il faut rappeler d'ailleurs le contexte intellectuel de l'époque. Là, on est en 1981, on est en pleine explosion médiatique de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, emmenée par le philosophe Alain de Benoist. Quelques années plus tôt, à la fin des années 60, apparaissait le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRES, et sa nouvelle revue, Nouvelle École. On voit à nouveau émerger l'idée dont on a parlé hier, qui est l'idée indo-européenne. Les thèses de Georges Dumézil étaient largement citées, presque récupérées. Est-ce que la création du genre humain, de cette revue, elle naissait aussi du désir d'allumer un contre-feu ?
Certainement, parce que dans la rédaction, il y avait également, je ne sais plus si j'ai dit son nom, Alain Schnapp, qui comme moi, archéologue, était très attentif à ces questions. C'est certain que pour moi, c'était un grand choc. J'ai acheté le numéro de Nouvelle École, Georges Dumézil, parce que j'étais un lecteur de Dumézil. Et quand j'ai commencé à lire, ce volume, c'était 71, 72, je ne sais plus, 73, j'ai dit, mais c'est pas vrai. On est au 19e siècle. C'est complètement anachronique. Donc vous avez tout à fait raison, la revue Le Genre Humain, elle est née, en effet, dans ce sillage-là, avec la particularité, puisqu'on a parlé de comparatisme et d'interdisciplinarité, qu'il y avait un souci presque aux limites, je dirais, d'interdisciplinarité, puisque dans cette même ouverture, en 1981, je disais et j'écrivais, je fais la lecture d'une deuxième et dernière très brève phrase, pour dire que dans cette revue, c'est entre science et société que l'on pourra découvrir régulièrement un texte d'écrivain, de poète, qui explorera les arcanes de la langue, grande révélatrice des représentations sociales et laboratoire des catégories de la pensée. Donc, on a fait très vite appel à des écrivains et des poètes pour nous situer entre science et société. Vous savez que le premier auquel on avait fait appel, c'est Georges Perec, que le volume Pensée classée, c'était notre titre que nous lui avons donné, est devenu un emblème aujourd'hui de l'œuvre de Perec, et que, hélas, je dirais, parce qu'il est mort très très jeune, le numéro du Genre Humain, le numéro 2, qui est apparu en mars 82, est sorti quelques jours avant la disparition de Perec, mais il l'a vu, le volume, il a eu, c'est tiré à part, il a même vu la presse qui a été publiée. Donc l'idée, ou plutôt la mise en application pratique de mettre dans un même lieu éditorial des savants, des écrivains, des poètes, des artistes, des musiciens, des hommes de théâtre, ça a toujours été le cas de la revue Genre Humain, et en fait c'est le cas aussi, vous le savez, de la librairie du XXIe siècle.
Et ce qu'animait cette revue, ça vous a permis de rencontrer des gens que vous n'auriez pas abordés en temps normal?
Les rencontres, évidemment, merveilleuses, fabuleuses. C'est un poète encore, Claude Royer-Journoux. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, on crée une revue avec des amis, à la Maison des Sciences de l'Homme, avec le Genre Humain et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? La science face au racisme, la transmission, la rumeur, Pensée classée. Pensée classée? Je dis, oui, tu sais, Lévi-Strauss et tout, Pensée classée, etc. Et puis, je lui dis, tu sais, quand même, quand on dit Pensée classée, il y a un troisième verbe qu'il faut pas oublier, qui arrive très vite, c'est Pensée classée, hiérarchisée. Les êtres humains ne peuvent pas penser sans classer, mais ils hiérarchisent tout aussitôt, et là, ça se passe souvent moins bien. Il me dit, mais il faut que tu ailles voir Georges Perec. Je dis, Georges, comment? Je ne connaissais pas l'œuvre de Perec. On était en 79-80. Et donc, en effet, c'était la chance de rencontrer. Voilà, je vais voir Perec, je prends rendez-vous, et je le vois, je lui explique, on fait une revue qui essaye de penser les tensions sociales. Nous pensons qu'entre science et société, il y a beaucoup de liens, et que tout ce qui touche au racisme, à la race, et l'émergence de ces tensions entre science et société, puisqu'on n'a jamais cessé, vous savez que les idées de race modernes au XIXe siècle sont nées dans les murs des académies universitaires. C'est pas des foules dans la rue qui criaient, c'était des professeurs qui pensaient. Et donc, je lui dis tout ça, et je dis, et donc nous allons faire un volume Pensée classée. On a pensé à vous, est-ce que vous accepteriez? Et alors, sur son grand tableau noir de l'époque, où il marquait tous ses projets, il me dit, ah ben oui, très bien, pour quelle date, etc. Voilà, acte 1. Acte 2, c'est la seule lettre, je crois, que j'ai reçue de lui. Il dit, vous allez être vraiment, vraiment très déçus, mais je suis en retard de tout, ça va pas aller, je regrette, je vais pas pouvoir faire ce texte. Alors, je suis aussitôt répondu, vous inquiétez pas, nous aussi on est en retard, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été en retard de tout, ça permet de ne rien rater. Et donc, le texte de Perec, il a pu le faire. Je me souviens encore, c'était aller le prendre chez lui. La lecture de ce texte, je me souviens, Lydia Flemme, ma compagne, m'accompagnait, la lecture de ce texte, on n'en pouvait plus de rire. On aurait pu pleurer aussi, tellement il est magnifique. Mais quand je suis arrivé et qu'il m'a tendu son article qui s'appelait « Pensée classée », j'ai dit « Écoutez, excusez-moi, là, il y a juste un... Enfin, vous inquiétez pas, on trouvera une solution, il y a un petit problème, c'est que le volume s'appelle « Pensée classée », on va pas appeler un chapitre du volume « Pensée classée ». Alors il m'a répondu calmement « Vous ne voyez pas que j'ai mis des guillemets et une barre oblique entre « Pensée classée ». C'était réglé, et c'est resté comme ça.
J'aimerais revenir, Maurice Hollander, sur votre engagement, puisque vous acceptiez l'idée d'une revue résistante, d'une revue militante, même si elle était académique. Et j'aimerais revenir sur un moment fort de votre trajectoire. C'est impossible d'évoquer ces questions d'implication dans le débat intellectuel sans évoquer l'appel à la vigilance, dont on vous attribue souvent la paternité. On est en 93, le 13 juillet plus exactement, et vous publiez dans Le Monde une tribune signée au départ par 40 personnalités. Alors, je vais seulement citer quelques-unes. Il y a Pierre Bourdieu, il y a Yves Bonnefoy, il y a Georges Duby, il y a Michel Perrault, Jean-Pierre Vernant. À quoi fallait-il être vigilant à l'époque ? Pourquoi ce titre, l'appel à la vigilance ?
Alors, vous avez bien dit les choses. C'est un appel qui a été publié dans le journal Le Monde, si je me souviens bien, le 13 juillet 93, signé par 40 personnes. Et l'année d'après, il y en avait 1500 ou 2000 de toute l'Europe, par ordre alphabétique, dans le même caractère.
Pas nécessairement des personnalités, il y avait aussi beaucoup d'inconnus qui avaient signé ce texte.
Énormément. Alors, la paternité de cet appel à la vigilance, et il l'a écrit en 2013 dans un texte publié, c'est Yves Bonnefoy. La paternité, c'est-à-dire, on parlait ensemble avec son épouse, Lucie Vines, et il m'a dit, il faut faire quelque chose. À quoi fallait-il faire quelque chose ? Il fallait faire quelque chose, non plus contre l'extrême droite, gens se battent contre l'extrême droite, mais quelque chose pour mettre en évidence la fragilité de la démocratie, pour dire que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a peut-être des limites qui ne doivent pas être dépassées. Il y avait à l'époque plusieurs publications où des gens négationnistes ou proches des négationnistes ou des éditeurs négationnistes publiaient des textes de gens de bonne foi qui ne se rendaient pas compte qu'ils se retrouvaient là. Et c'est l'analyse, si vous voulez, de la... Vous parliez avant de l'autre jour de légitimité. Le fait que quand un nom se trouve à côté d'un autre, il légitime les choses qui nous a incités à lancer cet appel à la vigilance. J'ai consacré un chapitre dans mon livre « As sans histoire ». Ce serait pas simple à raconter tous les détails, mais disons que c'est d'abord pour moi. Alors chacun, si vous voulez, à l'origine, il y avait Yves Bonnefoy, il y avait Umberto Eco, Arlette Farge, Nadine Fresco, Nicole Laureau et Patrice, très présent, Jean-Pierre Vernant. Vous l'avez dit, on se réunissait et on se dit « on va pas faire simplement un tract, faire une action dans un journal. On voulait réfléchir à ce que c'était, en effet, la responsabilité sémantique dont je parlais. Et je pense que chacun de nous avait sa vision de cet appel, avait sa vision. Moi, ma vision, c'est que c'était un appel, en effet, à la responsabilité philologique. J'ai retrouvé bien plus tard le rôle que les philologues ont joué, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, avait notamment, ce que Vincent Duclerc rappelle dans son grand livre sur Dreyfus. Je veux dire, les rapports à l'écrit, on y revient. L'écriture est une chose, c'est pas seulement que ça reste. Les paroles blessent également, les injures, j'ai dit. Mais l'écriture est quelque chose, lorsqu'on signe un texte, lorsqu'on signe une œuvre, je pense qu'on a une responsabilité, y compris une responsabilité liée au lieu de la signature. Pardon, je me rends bien compte que ce n'est pas simple à suivre, mais toute cette affaire d'appel à la vigilance était, se passait dans un mouchoir de poche entre quelques revues dirigées en effet par des gens liés à l'extrême droite ou au négationnisme, et où des gens formidables avaient été publiés, notamment Jean-Pierre Vernant. Qui avait été captivé là-dedans. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a voulu signer cet appel. Derrida a été extrêmement déterminant là-dedans, également.
On sent précisément votre vigilance dans la manière d'exposer les faits à l'époque, parce que ce texte n'a pas forcément été très bien compris, ou en tout cas, il a suscité beaucoup de polémiques, si bien que je m'interroge assez... Sincèrement, Maurice Hollander, jusqu'alors vous meniez vos combats dans un cadre académique, savant, presque confortable avec cette famille que vous vous étiez choisie. Qu'est-ce qui vous fait franchir le Rubicon ? Comment et pourquoi décide-t-on de s'exposer de combattre sur la place publique. Quelle urgence y avait-il pour vous ?
L'urgence, c'est que ce n'était plus tel ou tel groupe. Je parlais des négationnistes, telle ou telle forme d'idéologie d'extrême droite qui s'exprimait. L'urgence, c'est que ça se passait à l'intérieur, à l'école des hautes études, au Nouvel Observateur, à France Culture, à l'intérieur d'un univers entièrement démocratique, vous aviez des prises de parole qui visaient à ruiner la démocratie. Et vous savez très bien, politiquement, ça a été vu, c'est connu, vous pouvez avoir une prise de pouvoir démocratique de gens qui, par la suite, ne vont pas exercer un pouvoir démocratique. Autrement dit, l'appel à la vigilance était un appel contre personne, mais pour être attentif et pour dire qu'il y avait une responsabilité sémantique, une responsabilité à ne pas écrire, à ne pas dire, à ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Je me souviens d'Umberto Eco, qui était dans cette affaire extrêmement amical, parce qu'il venait à toutes nos réunions, on en avait une par mois, entre, si je me souviens bien, décembre 92 et juin 93. Et permettez-moi de mémoire, donc je vais le faire très mal, de citer Umberto Eco lorsque, un grand entretien dans Le Monde, on lui dit « Mais alors c'est quoi l'appel à la vigilance ?»« À vous, vous savez où est la vérité ?»« Ah, vous savez la limite ?»« La ligne rouge, vous, vous la savez ?» Et il a répondu « La ligne rouge, pour moi, c'est le corps humain. » N'importe quel système idéologique, système de savoir, système politique qui peut soutenir la torture d'un corps humain, sa maltraitance, pour moi, c'est ça la limite. Et je me souviens, mais c'est à vérifier, puisque c'est de mémoire, il disait, quand quelqu'un vous empêche de dormir, vous empêche de pisser, etc., la limite, elle est là. Alors évidemment, ceux et celles auxquels on a pu s'opposer dans l'appel à la vigilance sont pas des tortionnaires, mais ce sont des auteurs, au fond, pour qui ça ne pose pas vraiment de problème, d'être compagnons, non pas de route, mais de cousiner avec des idées et des publications qui, d'une manière ou d'une autre, historiquement, se sont avérées liées, en effet, à des politiques... je ne sais pas quel mot utiliser, parce que ce sont pas, tout n'est pas génocide, mais beaucoup de choses peuvent y conduire.
Je vais quand même rappeler, Maurice Hollander, les termes de cette tribune. Vous le faites d'ailleurs dans votre dernier livre, « Un fantôme dans la bibliothèque ». Vous écrivez donc, voici les premiers mots de l'appel. « Nous sommes préoccupés par la résurgence, dans la vie intellectuelle française et européenne, de courants antidémocratiques d'extrême droite. » Et puis on peut lire, à l'avant-dernier paragraphe, « Nous nous engageons à refuser toute collaboration à des revues, des ouvrages collectifs, des émissions de radio et de télévision, des colloques dirigés ou organisés par des personnes dont les liens avec l'extrême droite seraient avérés. » Est-ce que vous signeriez dans les mêmes termes aujourd'hui ?
C'est un texte impeccable. Bien sûr, oui, je le resignerai. C'est un texte qui n'accuse absolument personne nommément tout ça. Par la suite, il y a eu des polémiques dans les journaux pour dire qu'on en voulait à un tel, à un tel, à un tel. Non, on voulait attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Je vous dis toujours de mémoire, et je peux me tromper pour les dates, cette affaire était microscopique, de mon point de vue. Historiquement, évidemment, l'appel à la vigilance, des revues que personne dont on connaît même pas le nom, qu'on a oublié, où on pouvait retrouver un article d'une telle ou d'un tel, etc. Microscopique, mais pour moi macro-signifiant. À la même époque, vous aviez Charles Millon, dans les environs de Lyon, qui pactisait ou pas avec le Front National. Les questions qui sont posées au moment de l'appel à la vigilance n'ont cessé, vous avez tout à fait raison, n'ont cessé d'être actuelles jusqu'aujourd'hui et peut-être encore avec plus d'ampleur depuis les dernières élections.
Ça ne rassure pas vraiment sur l'importance de l'intellectuel ou sur le poids de sa parole. Est-ce que ça témoigne aussi d'une réception qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances ?
Ma réponse à votre question est bien sûr au nom de personne d'autre que de moi. L'appel à la vigilance signé par 40 personnes d'abord, ensuite par près de 2000 personnes. Là, je réponds en mon nom à moi. C'est quoi l'engagement de l'intellectuel ? C'est quoi de se battre contre des groupes, regardez le négationnisme, qui continue à déferler sur le web ? C'est quoi une femme, un homme violé qui veut mettre en évidence le viol qui a été commis contre elle, contre lui ? C'est très difficile. M'est revenue en mémoire une des préfaces à l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, où il écrivait ceci en se servant d'ailleurs d'une formule de François Mauriac qui avait préfacé, si je me souviens bien, le Bréviaire de la haine. Écoutez ce qu'il dit Poliakov. Écrire l'histoire de l'antisémitisme, c'est écrire l'histoire d'une persécution qui, au sein de la société occidentale, fut liée aux valeurs suprêmes de cette société, car elle s'est poursuivie en leur nom. Donner tort aux persécuteurs, demander ses comptes à la chrétienté. Et demander ses comptes à la chrétienté est une formule qu'il reprend à François Mauriac. C'est mettre en question cette société et ses valeurs. C'est pourquoi on peut se demander si une entreprise qui, bien souvent, il parle de son histoire de l'antisémitisme ici, c'est pourquoi on peut se demander si une entreprise qui, bien souvent, prend l'allure d'un réquisitoire, ne risque pas, en refaisant l'antique procès, de ranimer de sourdes animosités et même le rappel des torts causés, ici, il s'agit des Juifs, ne contribue pas à entretenir un climat qui un jour pourrait faire surgir des menaces nouvelles. Pourquoi cette citation ? Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir, moi je me suis senti en tout cas, impuissant par cette histoire d'appel à la vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux types de collègues, d'amis, de journalistes, tout ce que vous voulez, qu'on rencontrait. Ceux à qui on ne devait pas expliquer de quoi il s'agissait. C'est « Attends, tu ne vas pas m'expliquer, j'ai compris ». Et d'autres avec qui vous pouviez passer des heures à leur montrer des documents, à leur dire « mais tu te rends pas compte, un tel qui publie là, il fait ça, il ment, il fait etc. » Ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. C'est très, 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 très compliqué, me semble-t-il. C'est très compliqué d'expliquer des choses, peut-être, à des gens qui ne veulent pas le savoir.
Merci Maurice Hollander, on vous retrouve demain pour un autre combat éditorial, celui-ci, pour revendiquer une littérature des savoirs.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Maurice Hollander. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et se podcastent sur franceculture.fr.